Je m'occupais enfin de l'entretien et de chausser les tombes, tout ça. Et on faisait ça, je faisais ça à la main, quoi. Il n'y avait pas de pelle mécanique, il n'y avait pas de. Voilà.
L'émission Les Capsules du Patrimoine vous emmène au cimetière aujourd'hui. Les Capsules du Patrimoine déchiffrent une époque, une architecture ou un savoir-faire pour mieux comprendre d'où on vient et où on va. L'équipe du service inventaire du patrimoine, Midi Quercy, nous explique qu'est-ce qu'on fait là. Sandrine Ruefli et Léa Gérardin-Macario, bonjour toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Au cimetière de Veissac.
C'est au cimetière de la commune de Veissac que nous avons rencontré Hubert Bonafé, fossoyeur de plusieurs cimetières sur la commune de Veissac.
Vous allez nous emmener dans une chasse aux indices dans le cimetière et puis surtout découvrir les méthodes d'Anton.
Bah, on va découvrir ce métier que l'on ne connaît pas. C'est une partie aussi de notre métier à nous. On documente l'architecture, quelle qu'elle soit. Mais on documente aussi certains métiers, enfin on tente de les documenter en menant ce type d'enquête. C'est pas des plus évidents parce que c'est pas le cœur de ce que l'on sait faire. On fait plutôt de la recherche en archives et de l'analyse architecturale, mais on interroge aussi les personnes sur leur façon de vivre dans les maisons, sur les savoir-faire. Et puis là, on étudie également les cimetières, hein, donc l'architecture des cimetières, l'évolution des cimetières. Et voilà pourquoi cette rencontre avec cet ancien fossoyeur.
Une part de notre métier, c'est aussi recueillir la parole soit des habitants ou de ceux qui savent faire. Et donc au cimetière, celui qui sait faire, c'est le fossoyeur. Donc nous, on sait enquêter sur l'architecture, mais... apprendre à faire parler les gens pour les emmener vers ce qu'on cherche nous, c'est-à-dire des informations très pratiques sur comment ça se déroule, une inhumation avant. Pourquoi avant ? Parce que, et pourquoi on a interrogé ce fossoyeur qui est maintenant à la retraite ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de normes depuis les années 2000, enfin les années 90, il y a beaucoup plus de normes sur l'inhumation. Donc, les fossoyeurs, comme le pratiquait M. Bonafé, c'est-à-dire des gens qui faisaient ça à la main, avec une pelle et une pioche, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est des entreprises spécialisées qui font ça avec des moyens mécanisés. Et donc nous, on a voulu aller recueillir, lui, son expérience personnelle. Et donc on l'a suivi sur une après-midi avec notre micro. Et nous, c'est pas vraiment, vraiment notre travail de suivre les gens avec un micro, donc c'est assez particulier. On essaye de lui poser beaucoup de questions et de faire la part après entre ce qui va être très personnel pour lui et puis ce que nous, on a vraiment besoin, c'est-à-dire des informations historiques ou pratiques et sur les pratiques qui se faisaient donc au cours du XXe siècle.
Il y a plusieurs événements qui m'ont marqué ici. Par exemple, j'ai creusé une tombe le jour de Noël sous la neige, parce que autrefois, aujourd'hui, on a les je vais dire, pardonnez-moi l'expression, mais les frigos, quoi, les congélateurs pour conserver. Et donc, voilà, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça, et donc il fallait enterrer quand c'était
le bon moment,
voilà. Et je me souviens de ça, sous la neige, j'avais enterré. J'avais pas très gardé un très bon souvenir de la neige ce jour-là, voilà. Ah, oui. En fait, le fossoyeur, on le voit de deux manières. Ou on vient vers lui parce qu'on a besoin de lui parler, on a besoin de se confier, ou alors il est vu comme un oiseau de mauvais augure, mm-hmm. porte-malheur. Mm-hmm. Et, moi, j'ai vu un homme un jour qui m'a tendu la main, il a retiré, il m'a dit je ne serai pas la main d'un fossoyeur.
Ce paysage du cimetière avec toutes ces tombeaux un peu anciens qui sont, comme vous disiez, là, un petit peu disposés parfois aléatoirement.
Oui.
Et en fait, ce paysage-là, il disparaît au fur et à mesure.
Ça disparaît, oui, oui. Parce que justement, ce que j'ai appelé tout à l'heure une pagaille, c'est l'histoire qui était écrite là dans tout ça. Hein. Moi, je trouvais que voilà, c'est dommage. On détruit l'histoire parce que. Alors, moi, ce qui me parle, c'est les dates. Les dates. Parce qu'en fonction de la date. Je sais ce qui reste au fond. C'est bon.
Parce que là, ce monument-là, donc vous disiez, c'est votre grand-père qui l'a fait.
C'est lui qui l'a fait construire.
Donc c'est dans les années 30, 40,
plus tard, il est décédé en 84, il a fait peut-être 10 ans avant, quoi.
Parce qu'il a été un petit peu construit à l'ancienne quand même.
Ben oui, parce que l'entrepreneur qui l'a fait, en fait c'est mon grand-père qui avait choisi cet entrepreneur. C'était un ancien entrepreneur, il a travaillé je crois jusqu'à 90 ans, je le connaissais bien moi. Il y a une histoire sur lui.
et peut-être que cet entrepreneur, il a récupéré des matériaux d'anciens monuments pour reconstruire celui-là, non ? Vous pensez pas ?
Non.
Style est ancien parce que la poignée là en fer, elle fait bien années 30-40. Et il y a plein de petits crochets là sur les côtés.
Oui, c'était fait. Mais c'est vrai qu'il était. C'est-à-dire qu'il avait, je crois même qu'il avait déposé un brevet, il avait ce style de construction.
Il y en a un autre qui ressemble beaucoup, ouais. Celui-ci-là.
Ah ouais, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est en train de... La mort, on ne veut pas la voir, on met les gens dans... Dans les chambres funéraires, il faut qu'ils soient bien, et puis là, et voilà.
Qui est-ce qui fréquente les cimetières ? Est-ce qu'il y a que les familles ? Est-ce qu'il n'y a pas des fois des curieux ou des historiens ?
Mais c'est-à-dire que je connais une histoire, là, sur une tombe, on peut aller la voir ?
Oui.
Mon arrière-grand-mère avait vu, c'est un couple là, Louis de la Palme, c'était des nobles qui habitaient, il y avait une maison. Et donc, mon arrière-grand-mère avait vu la dame sur son lit de mort, c'était une famille très riche, et elle était parée de tous ses bijoux. Et un jour, j'étais fossoyeur à l'époque, un dimanche, il y avait... trois personnes qui étaient en train de fouiller là.
Ah oui.
Ah, moi j'ai averti le maire parce que je me sentais un peu responsable. Il est venu, il a fait un contrôle d'identité, et puis c'était des personnes de Oran, j'ai envie de dire. Les gendarmes sont venus, tout ça, et puis ils ont dit au maire, vous avez assez de problèmes avec vos champignons, avec Isaac, alors laissez ça tranquille. Ils se sont tournés vers moi, ils m'ont dit, toi, tu fermes ta gueule, t'as rien vu. Comme c'était des gens de la famille, voilà. Je ne sais pas s'ils étaient venus rechercher.
Ah oui.
Il y avait beaucoup d'or là-dedans. D'après mon arrière-mère, elle l'avait vu.
Elle l'avait vu.
Voilà, c'est pas un.
Ah, on dit elle avait vu le.
C'est pas quelque chose qui puisse bien vous intéresser dans vos.
si, parce que c'est une réalité aussi. Hein. Les pillages dans les cimetières, c'est quand même. Il faut pas le taire non plus, c'est une réalité.
Bien sûr,
parce qu'en général, c'est vrai qu'à la fin, les personnes demandent, ou la famille demande à ce que les gens soient enterrés, comme vous dites, avec leurs plus beaux vêtements, bijoux.
Je vais vous raconter une histoire. Je passe toujours du coq à l'âne, je vous parlais de mon arrière-grand-mère tout à l'heure, et elle m'avait parlé, tout petit, elle m'avait parlé de la mort.
Oui.
Et elle me disait, oh, tu vois, je vais mourir. Elle m'avait tout décrit en détail et comment ça se passerait. Et puis elle me disait, tu viendras prier sur ma tombe.
Oui, de ne pas avoir de tabou.
C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé ces travaux-là. Ça m'a pas coûté, en fait, je veux dire. Ça m'a coûté. ça m'a coûté, oui, parce que j'ai enterré que des personnes que je connaissais. Et
tous
mes voisins là partout, et c'était des hommes et des femmes qui m'avaient vu naître, qui m'avaient fait sauter sur leurs genoux. Mais enfin, bon, voilà, ça fait mal et ça fait du bien en même temps, c'est un paradoxe. Allez, celui-là, il a fait 4 ans à Buchenwald.
Ah oui.
Et il m'a raconté des choses. Ce qu'il a vécu là-bas.
Ouais,
parce que les SS, ils n'étaient pas tant, je peux le dire.
Oui, on voit qu'il y a beaucoup de plaques des anciens déportés et internés.
Alors, ça parle
camarades.
De l'histoire aussi. Quand on voit ce nom-là, si on ne le sait pas, il avait vécu une histoire terrible. Il est revenu, il est parti. C'était un mec qui faisait 70 kilos. Il est revenu, il pesait juste la moitié, 35 kilos. C'était un squelette vivant. Ces choses-là ne vous intéressent pas dans votre truc.
C'était un résistant ou comment ça se fait qu'il ait été déporté
Il a été dénoncé comme, vous savez, la délation. C'est une époque où, pour quelque chose qui n'était pas, on l'avait dénoncé comme communiste.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que tous les tombeaux, ils se ressemblent. C'est assez standard aujourd'hui ce qu'on fait. Par rapport à toutes ces tombes anciennes
qui sont
très très diverses.
Vous vous rendez compte, cette croix, la sculpture là, le travail.
Là, c'est un vrai travail de sculpteur.
C'était fait à la main, ça. Hein. Oui. Il n'y avait, pas de machine, rien. C'était bien, c'est joli. Là aussi, il y a le petit portillon, comme vous disiez. C'est la même que là-bas.
Finalement, c'est assez élégant. Il y a le petit portillon,
la
sculpture, il y a des fleurs sculptées.
Oui. C'était déjà quelqu'un qui avait un certain niveau, je veux dire, à la société. Parce qu'autrefois, le menuisier fournissait la croix. Il y avait très peu de croix en pierre autrefois, c'était la croix qui accompagnait.
Une fois que la famille pouvait éventuellement payer une croix en pierre,
le
faisait.
Et quand il y avait un enterrement, vous veniez au cimetière avant ouvrir le caveau
des caveaux, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait surtout des tombes, comme je vous disais, il y avait très peu de caveaux. Et les caveaux, c'était en général, c'était un artisan qui le faisait. J'en ai fait quelques-uns, mais enfin très très peu, c'était pas. Oui, je faisais la tombe la veille. Et puis il fallait que ça se fasse, et qu'il pleuve, qu'il vente, il fallait que ça se fasse. Voilà.
À la pelle et à la pioche.
À la pelle et à la pioche, oui. Ah oui, j'ai connu que ça, moi. Et puis, bon, en fonction de ce qu'il y avait au fond, et des fois, c'était pas toujours évident.
Ben, merci, on a quand même fait bien le tour.
Si vous voulez aller avec ça, je sais pas.
Tu veux, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, on peut repasser ici, s'il vous plaît. Déjà, j'arrête cet enregistrement-là.
On te traverse, sans prendre le temps d'admirer tes talons. Quand d'un coup miracle il neige et par la force des choses on lève les yeux au ciel et le sourire aux lèvres, on te regarde renaître sous une pluie de paillettes, les cœurs se soulèvent et dans un grand silence on retombe en enfance. Vêtu d'un voile blanc, ville, tu rayonnes au milieu de la nuit. Ce soir, c'est toi la plus jolie. Même tes poubelles qu'on ignorait la veille sont devenues des visages qui dégueulent des nuages. Te traverse, ce soir on prend le temps d'admirer tes talons. Car cette nuit miracle, il neige et par la force des choses, on lève les yeux au ciel et le sourire aux lèvres, on te regarde renaître sous une pluie de paillettes. Les cœurs se soulèvent et dans un grand silence on retombe en enfance.
Voyou, il neige sur CFM dans cette émission et les capsules du patrimoine où Léa Gérardin-Macario et Sandrine Rueffli du service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy nous emmènent aujourd'hui au cimetière de Veissac, guidé par Monsieur Bonafé, fossoyeur historique.
C'était très dangereux parce que la terre est très... Ça a été tellement travaillé. Et donc, voilà, un jour, ça, j'ai senti, j'étais au fond, hein. J'ai entendu quelque chose, un petit bruit là, parce que j'avais un cadre au bout. Je me suis tiré comme ça, je me suis éjecté, pouf, dessous ça s'est... J'avais mes outils au fond, j'ai dû aller chercher une autre pelle et une autre pioche pour dégager mes outils. Ah, si j'avais pas eu le réflexe de me tirer, mais il n'y avait plus qu'à faire la bénédiction dessus, c'était fini, l'enterrement a été fait.
C'est vrai que c'était un métier dangereux, finalement.
Mais quand on a ce qu'il faut, c'est pas dangereux. Quand on a ce qu'il faut, et puis du coup, après, bon, ils m'ont donné des planches, ce qu'il faut. Et puis,
enquête de terrain et recueil de témoignages.
Alors, l'intérêt aussi pour nous de ce type d'enquête, c'est de, évidemment, de, enfin, je dis évidemment parce que c'est un peu la quête de l'inventaire, c'est de découvrir qui a construit aussi ou qui a édifié ces monuments. Parfois, effectivement, en interrogeant aussi, certes les sources, mais en interrogeant aussi les personnes, on peut avoir des indices, parce que le nom du constructeur n'est pas toujours mentionné sur ces monuments de toutes sortes. Et on se rend compte que parfois, alors on le verra un peu plus tard, mais dans d'autres cimetières, on se rend compte que ce sont aussi des maçons, des tailleurs de pierre qui ont édifié ces tombeaux.
Et donc les cimetières, c'est un vrai enjeu, on va dire, de patrimoine local, puisque mine de rien, ces tombes, c'est ce qu'on appelle les tombes, les tombeaux ou ceux qui sont en forme de chapelle, donc ils sont vraiment des sortes de toutes petites tout petits bâtiments, mais c'est, qui sont faits par des professionnels. Ils racontent aussi une histoire sur les savoir-faire locaux. Et par exemple, on voit beaucoup de tombes du 19e siècle qui sont faites en pierre de taille, donc avec des tailleurs de pierre. Mais quand on avance après dans le temps, il y a d'autres matériaux qui vont être mobilisés, comme le béton, qui va arriver au cours du XXe siècle, et après toutes sortes de matériaux reconstitués comme le granito. Et maintenant, nous, on a l'habitude, on a l'impression que c'est évident, un tombeau en granit poli ou en pseudo-marbre, mais en fait, c'est assez récent dans l'histoire du cimetière, ce type de tombe. Donc nous, notre travail, c'est justement d'aller observer toutes les manières d'inhumer anciennes, parce qu'il y a parfois des petites œuvres d'art dans les cimetières ou des choses tellement évidentes qu'on les voit plus, comme des croix en fer forgé qui ont été fabriquées en série dans des usines. Et aujourd'hui, on n'en retrouve plus d'intérêt, mais en fait, elle raconte quand même l'histoire d'un moment de la société qui produisait ces éléments en série. Il y a aussi des enjeux forts pour les mairies qui s'occupent des cimetières, qui doivent justement, ont parfois des problèmes de place, et elles doivent remobiliser des sépultures anciennes et sont amenées à chercher, ben, donc s'il y a des descendants qui veulent continuer à entretenir une tombe, et s'il n'y en a pas, elles récupèrent la concession pour pouvoir ensuite la redonner à quelqu'un d'autre. Et c'est là où nous, on peut intervenir, enfin en tout cas, venir étudier un tombeau ancien avant qu'il disparaisse, puisque des fois, ils sont très très dégradés, en très mauvais état, et donc on est obligé de détruire ce qu'il y a là pour reconstruire. Et d'autres fois, au contraire, certaines mairies font le pari de revendre le monument qui est dessus, pour qu'il puisse être entretenu et justement ne pas disparaître. Donc là, nous, on voudrait essayer, enfin, on essaye d'accompagner les mairies là-dessus et étudier tous ces monuments qui vont passer à la postérité et être réinvestis par des nouvelles inhumations. Et ceux qui doivent disparaître, on essaye de les documenter. Avant qu'ils disparaissent. Donc ça vaut pour le monument en dur, mais aussi pour tous les objets associés. Parce que souvent, on veut faire propre, on veut faire place nette un petit peu. Et donc, on va enlever tous les objets qui sont avec, mais ce sont des objets anciens qui parlent de pratiques aussi anciennes, qui des fois, des savoir-faire qui se sont perdus, comme les couronnes de perles, par exemple. Aujourd'hui, on n'en fabrique plus. Et pourtant, c'était fabriqué partout il y a 150 ans. Et ces objets disparaissent au fur et à mesure. Et nous, notre travail, c'est d'essayer de les documenter avant qu'ils disparaissent complètement.
Le souvenir français. J'arrive pas à me rappeler. D'accord. Tout à l'heure.
Voilà. Une association qui restaure les tombes.
C'est, en fait, je l'ai... C'est moi qui l'ai sauvée parce qu'elle était pour disparaître. J'ai dit, il ne faut pas le faire. Et puis, bon... Vous savez, un fossoyeur ne l'écoute pas trop parce que ça ne porte pas beaucoup auprès des élus. Là. Et c'est... c'est pas très riche d'un point de vue historique ici.
Ici, bah, on voit que c'est plus réoccupé, qu'il y a plus de tombeaux neufs. Ah, ouais. Il reste quand même quelques... Ouais. Oui. Chapelle ancienne, oui. Là, oui. De chapelles,
un caveau. Le plus vieux, c'est celui-là.
Famille Gaillard.
C'était comment on appelle ça, un chiffonnier.
Un chiffonnier.
Le Pellarotte, ah, oui. Comme on disait autrefois.
Ah,
il habitait, il n'y a pas de succession. Et, je ne sais pas, il voulait...
Et ils ont quand même un beau tombeau,
oui, oui, oui,
pour des chiffonniers. On ne s'y attend pas.
Oui, oui, mais ils sont très riches, les chiffonniers. et voilà... C'est la plus vieille, quoi,
la plus ancienne du cimetière.
Ancienne. Ouais.
Après, il reste quand même quelques pierres tombales, quelques croix en fonte.
Ah, ouais.
Mais c'est vrai que ça disparaît vite. Après, il y en a quand même quelques, pas mal, qui sont fleuris encore. Hein, donc
Ici, c'est encore fleuri. Ouais. Ouais. Ouais, c'est fréquenté.
Ouais. Ouais.
Mais ça s'attend à disparaître.
Ouais.
J'ai enterré un bébé là, ici. C'est un bébé là.
Ah ouais.
Ouais.
Bah, visiblement, ça a pas...
Oui, je sais pas, ça...
La tombe n'a pas été entretenue. Parce qu'elle a le petit panneau, et le petit panneau dit « Toute personne susceptible de fournir des informations concernant cet emplacement est priée de les communiquer en mairie, soit en se présentant, soit en adressant un courrier. »
Ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous, moi je vous raconte tout ça, mais...
mais si, nous,
elle,
ça...
Elle était morte de la grippe espagnole. Elle n'était pas morte dans la région, elle était dans un cercueil capitonné en zinc.
Ah, à cause de la grippe espagnole?
Oui, et donc...
Elle avait été rapatriée ici
Oui, mais c'était quelqu'un de la région quand même. Et donc, tout le bois avait péri, il ne restait que le zinc, mais il était étanche. Alors, il s'était oxydé sur les...
Sur les bords?
Sur les angles, quoi. Il s'était oxydé... Ça m'a permis de soulever s'il fallait l'exhumer. Elle avait une, j'étais marqué, une chevelure blonde intacte, une belle chevelure blonde qui s'était décollée du crâne en fait. Parce que là, les exhumations, on les faisait en présence d'un officier d'état civil.
Ah oui.
Enfin, je creusais et puis il venait pas parce qu'il me faisait confiance quand même. Et là, quand j'ai soulevé ce couvercle, il y avait toute l'odeur d'un seul coup qui est...
Ah oui, ouais,
d'un seul coup qui était là. Et puis après, ouais. ça a été parti, vite parti, mais c'était...
Ouais, c'est...
Voilà, ça,
c'est des cas particuliers, c'est, j'imagine. Oui, pas...
mais vous savez, j'ai envie de dire que chaque tombe est un cas particulier. Et c'est chaque tombe a son histoire, ça c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est...
Ah, ouais. Mais à chaque fois, c'est quand même une histoire, mais qui parle de l'histoire en général, parce que là, la grippe espagnole, ben, c'est un moment dans l'histoire qui a quand même touché beaucoup de monde.
On ne sait pas exactement le nombre de morts que ça a fait, c'est entre 40 et 70 millions, et c'est une fourchette quand même assez...
Et là, on a trois tombeaux presque parfaitement identiques.
Trois tombeaux, ah oui.
Oui, mais ça c'est un style, c'est un entrepreneur qui parce que quand ils faisaient ces caveaux comme ça, en béton, ils avaient un moule et puis ils faisaient toujours le même, c'est comme celui dont on parlait à Revel, là, vous voyez, c'était toujours le même.
Oui. Regarde, là, il y a même une plaque.
Ah là, il y a la plaque, oui.
Ah là aussi, modèle déposé.
Je le connaissais celui-là.
Monument funéraire, il y a une petite plaque à l'angle du caveau. Monument funéraire,
Semenadis, à Montauban.
À Montauban, modèle déposé.
D'où la répétition aussi, quand on fait appel à ce même entrepreneur.
Voyez, il avait plusieurs modèles, et là aussi, c'est lui.
Et oui, c'est lui aussi ici.
Et là-bas, je me demande si c'est pas lui. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il avait exercé jusqu'à 90 ans, jusqu'à sa mort presque.
Ah, c'était le même.
Oui,
c'est
oui,
lui
oui.
dont
vous parlez.
D'accord.
Oui, oui. Ah, moi, je le connaissais bien. Là, il y en a une.
C'est Ménadis, monument funéraire à Montauban.
Il a du succès, il a une signature.
Il est enterré là-bas, je vais vous montrer où c'est qu'il est enterré.
Il est enterré ici.
Il est enterré là, oui. Il est enterré ici, et même j'ai une petite histoire à vous raconter.
Ah,
ouais.
C'est formidable.
Ah, mais oui, il est là. Jean-Pierre Semenadis.
C'est pas lui?
Justin Semenadis, donc Jean-Pierre, ça doit être le fils ou
ça
le frère.
C'est son fils.
Et c'est Justin Semenadis, 1909-1999, donc 90 ans.
Et je vous ai dit, il a jusqu'à la fin, il a exercé.
Mais du coup, il avait son magasin à Montauban ou son atelier à Montauban.
Je crois qu'il y a même son adresse.
Il y a son adresse.
22 rue La Mauricière.
Exactement.
C'est pas ça, je m'en souviens. Oui.
Et ils habitaient ici à Veissac?
Non, il habitait à Montauban. Il habitait, mais il venait ici.
Ils se sont
et c'est lui qui a fait le caveau à mon grand-père. C'est lui qui l'avait
D'accord.
fait.
D'accord. Ah bah on est quand même contente d'avoir connu Monsieur Semenadis.
Ah oui, c'est... oui, 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 oui. C'est... Ah oui, il en a fait beaucoup. Oui.
Ah, et de constater qu'il est enterré aussi dans,
il,
dans
il est venu s'enterrer ici, entouré finalement de tous les monuments funéraires qu'il a fait pendant toute sa vie.
Le deuil autrefois, c'était quelque chose de moi, c'était assez touchant parce que si vous lisez l'histoire du vieux Quercy, le vieux Quercy c'est une histoire qui avait été écrite par un curé natif de Cahors, l'abbé Sol. Et je crois qu'il avait écrit ça, peut-être vous le connaissez mieux que moi, cette histoire-là, dans les années 1880-85. On arrêtait la pendule, on faisait porter le deuil aux abeilles. Il y avait plein de choses comme ça. Enfin, ça me vient comme ça.
Comment ça, aux abeilles? Moi, je ne connais pas.
Comment
faire porter le deuil aux abeilles?
On mettait un morceau de tissu noir à chaque ruche. Voilà. Voilà.
Mais pourquoi?
Eh bien, parce que si on ne leur faisait pas porter le deuil, elles mouraient dans l'année. Et ouais, bon, c'était... Alors... Il y avait ce qu'on appelait les messagers, c'est quand il y a le décès quand arrivait le décès, les messagers allaient inviter la famille, des fois c'était très loin, enfin pas comme maintenant parce que ça. Et ce qu'on appelait les messagers, dès le décès, ils partaient. Mais ils partaient, ils étaient à pied. Et des fois, ils étaient revenus juste pour l'enterrement. Voilà. Ouais. Voilà. C'était. Ouais. Et moi, j'ai connu un peu ça, mais enfin, ils n'allaient pas à pied à l'époque.
Oui.
Même je me souviens que mon père encore avait fait les tournées d'invitation à vélo. Hein.
Ah, eh oui.
Ah, ouais, ah, ouais.
Et le cercueil, il était apporté, amené au cimetière hein, avec le corbillard ou
il y avait un corbillard qui était tiré par un cheval, il y avait les brancards et tout, et je ne l'ai jamais vu tiré par un cheval. Après moi, quand j'ai exercé, le corbillard il servait juste aux gens, c'est-à-dire qu'on déposait le mort au Christ là-bas, et là on déposait ils amenaient le cercueil en voiture et ils posaient le cercueil sur le corbillard, et de la croix du centre de la place, là ils l'amenaient à l'église comme ça. Et à Revel, c'était un corbillard porté à 6 personnes, vous savez. Je venais de creuser, c'est une dame qui était décédée. Je venais de creuser, donc voilà, c'était fini, et puis j'étais un peu fatigué. Et il y avait un cabanon là, je rangeais mes affaires là, et puis je sortais, je vois une dame arriver là, et je dis bonjour monsieur, bonjour madame, c'est vous qui creusez la tombe? Eh oui, je peux la voir. Ben oui. Et alors je viens, regarde, elle tournait là, je la sentais pas dans la peine, vous voyez qu'elle était pas là. Je voyais que c'était le fond de la tombe qui l'intéressait, mais enfin, peu importe. Et elle me dit comme ça, vous croyez que c'est assez profond? J'ai dit, je fais la profondeur réglementaire, mais je fais selon le souhait des familles. Si vous pensez que ce ne soit pas assez profond, dit, oui, creusez, parce que c'est pour ma belle-mère et je ne veux pas qu'elle ressorte, cette sale bête.
Voilà, ça c'est dit.
Sachez-le écrire. Et alors, il y a des personnes qui m'ont dit, non, ça c'est pas vrai, tu l'as pas vécu. Si vous t'as écrit ça pour... Vous voyez, je vous l'ai raconté au pied de la
porte. C'était ici. On l'a vu.
Dans ce petit bouquin, il n'y a pas une syllabe inventée.
Alors, on vous a emmené avec nous dans les cimetières de Veissac, avec Monsieur Bonafé également. Et on a fait pas mal de découvertes. On a bien avancé sur cette thématique des cimetières. Et on vous invite à lire l'ouvrage de Monsieur Bonafé qui s'appelle Témoin du retour à la poussière. Et puis vous pouvez également aller écouter des extraits de cet ouvrage, de ce livre, lors du spectacle qui aura lieu à Keilus à la médiathèque le 31 janvier prochain à 15h. Lecture musicale,
Tout à fait, une lecture par Dominique Catherine et accompagnée au violoncelle. Et on remercie donc beaucoup Monsieur Bonafé de nous avoir, d'avoir eu la patience aussi de répondre à toutes nos questions et de nous avoir transmis un petit peu de son expérience de fossoyeur.
Merci à vous deux, Léa Gérardin Macario et Sandrine Rueffli pour le service inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy.
Merci.
Merci, au revoir.
L'émission Les Capsules du Patrimoine est proposée par le service inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy et soutenue par le Pays d'art et d'histoire Midi-Quercy, le département de Tarn-et-Garonne, la région Occitanie et le programme européen LEADER. Les Capsules du Patrimoine, c'est tous les mois sur CFM Radio et quand vous voulez, en podcast sur le site cfmradio.fr.